Bonjour, bonjour à tous. Pierre Higoui était venu il y a 2 semaines dans cette matinale pour commenter et analyser les résultats du premier tour de la présidentielle et il a accepté de revenir pour se livrer au même exercice après le second tour, ce dont je le remercie chaleureusement. Bonjour Pierre Higoui, merci encore, merci vraiment d'être au micro de Radio Présence de bon matin. Nous allons aller du général vers le particulier pour commenter les résultats des élections, donc du national vers le régional et même le départemental. Emmanuel Macron a donc été réélu avec 58,55% des voix très précisément face à Marine Le Pen qui a recueilli de son côté à peu près 41,5% des voix. La participation a été de 72% en baisse de 1,5 par rapport au premier tour et de 2,5 par rapport au second tour de 2017. Voilà pour les chiffres bruts. Pierre Higoui, quels enseignements tirez-vous de ce second tour? Est-ce que dans les chiffres que je viens de donner, il y a des choses surprenantes à proprement parler?
Bonjour Eric Dupri, écoutez, rien de surprenant à proprement parler, Macron l'emporte largement en forte baisse quand même par rapport à 2017, on voit qu'il a perdu 2 millions de suffrages par rapport au deuxième tour de 2017. Marine Le Pen quant à elle a gagné un peu plus de 2 millions et demi de suffrages. Donc rien de surprenant à proprement parler, la logique de barrage a fortement joué, notamment chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui se sont reportés à 42% sur Emmanuel Macron. Quand même 17% se sont reportés sur Marine Le Pen malgré les consignes de vote et 24% se sont abstenus et 17% de bulletins blancs et nuls, donc quand même beaucoup d'électeurs n'ont pas exprimé de choix, beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon n'ont pas exprimé de choix lors de ce deuxième tour, ce qui est assez notable.
Oui, alors la participation, je l'ai dit, est en baisse d'un point et demi par rapport au premier tour, on s'y attendait un petit peu, de 2,5 par rapport au second tour de 2017. Il faut ajouter une autre donnée, c'est qu'il y a eu 5,5 de bulletins blancs. Donc, grosso modo, il y a un électeur sur trois qui n'a pas exprimé de choix lors de ce second tour. Ça, c'est énorme et je crois que ce n'était pas arrivé depuis 1969, l'élection de Georges Pompidou.
Effectivement, un électeur sur trois n'a pas exprimé de choix. Jean-Luc Mélenchon disait hier soir qu'il est le président le plus mal élu de la 5e. Si on exclut Georges Pompidou, effectivement, dans un contexte bien particulier, où il était opposé à Alain Poher, donc deux centristes face à face, donc c'était un peu différent. Un électeur sur trois n'a pas exprimé de choix, donc c'est assez simple à comprendre. Il y a, je pense, une espèce de... une sorte de découragement dans ce second tour, hein, notamment des électeurs de gauche, d'être confrontés à nouveau au duel Macron-Le Pen. Donc un découragement, un espèce d'essoufflement démocratique qui peut exprimer ce résultat.
Oui, alors on avait vu au premier tour, il y avait trois forces à peu près équivalentes entre la gauche, le centre et l'air, je les mets ensemble, et puis la droite, on va appeler nationale, certains diront extrême droite. Grosso modo, 33% du corps électoral pour chacun d'entre eux. Ce paysage comme ça, fragmenté, qui n'est pas étonnant parce que les élections intermédiaires l'ont un petit peu déjà montré, est-ce que Emmanuel Macron ne va pas devoir être beaucoup plus qu'un président rassembleur, un président réconciliateur? Est-ce qu'il peut être cet homme-là?
Bon, Emmanuel Macron, dans son discours de victoire hier soir, il a pris acte de la logique de barrage qui a permis de le réélire à la présidence de la République. Bon, il ne pouvait pas de toute façon se passer de prendre acte de ça. Et évidemment, il entend rassembler et ses électeurs et les électeurs qui se sont portés sur lui au second tour. Ce sera difficile pour lui, hein. Ce sera difficile d'être un président réconciliateur. Emmanuel Macron, c'est une personnalité assez clivante qui est détestée. Pas du tout aimé par une grande partie de la population, par une partie de la population. Donc ce sera difficile. Il faudra pour lui, je pense, infléchir sa politique économique, sa politique sociale, en faisant évidemment un pas, en tendant la main aux électeurs, notamment de gauche, qui lui ont permis d'être réélu.
Voilà, on y reviendra peut-être sur cet aspect-là. Alors, les résultats du second tour dans notre région, cette fois-ci, est-ce que là aussi, on observe des choses surprenantes dans certains départements? Est-ce qu'il y a eu des évolutions auxquelles on ne s'attendait pas forcément? Et d'abord, peut-être, quels sont les départements où Emmanuel Macron n'est pas en tête?
Alors, dans la région, on a deux départements où Emmanuel Macron n'est pas en tête. C'est dans le Tarn-et-Garonne et dans l'Aude. Dans le Tarn-et-Garonne, notamment, c'est intéressant parce qu'il était en tête en 2017 au second tour. Et là, la tendance s'est renversée. Donc en 2017, il arrive en tête à plus de 57% des suffrages. Et cette fois-ci, Marine Le Pen est en tête avec un peu plus de 52% des suffrages. Donc Emmanuel Macron a perdu presque 10 000 voix dans le Tarn-et-Garonne entre 2017 et 2022. Donc ça, c'est assez notable. Dans tous les autres départements, il est en tête, mais en recul par rapport à 2017. Sans aucune exception, dans tous les départements, il est en recul. Donc c'est un résultat en soi, hein, effectivement, puisque la logique, on va dire la logique de barrage a moins fonctionné cette fois. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une espèce d'essoufflement. Les gens ont été un peu, comment dire, déçus d'être à nouveau confrontés à ce second tour.
Oui, c'est-à-dire que c'est le match retour de 2017 et effectivement certaines personnes ont commenté 5 ans pour rien. On peut pas dire tout à fait ça, étant donné que le score de Marine Le Pen a quand même progressé de 7,5 points au niveau national. Alors vous parliez de l'Aude. L'Aude, Marine Le Pen arrive en tête avec 55% des suffrages. Là, c'est vraiment très net. J'ai pas le souvenir que c'était un département où en 2017 elle était arrivée en tête. Je ne crois pas non plus. Je n'ai pas le chiffre en tête. Mais en tout cas, et il y a d'autres départements où c'est quand même très juste. Voilà, l'Ariège, Emmanuel Macron, 51-49, il est devant, mais de très peu. Les Hautes-Pyrénées, en revanche, il est nettement devant avec 55,5 points. Il y a un autre département, ben, c'est pas si loin, c'est pas notre région, mais c'est quand même proche. Lot-et-Garonne. Agen, tout ça, 50 points et demi, ça touche le Tarn-et-Garonne, vous avez remarqué. C'est Marine Le Pen qui est en tête. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ça, comme enseignement pour les prochaines législatives qui vont arriver dans quelques semaines? Est-ce que ça, on peut faire des projections? C'est pas si simple que ça, tout de même.
Très difficile de faire des projections. Déjà, la première chose à faire, c'est voir le niveau de participation entre une élection présidentielle et une élection législative. On sait qu'en 2017, le taux d'abstention au national au premier tour s'élève à 51,3%, au deuxième tour à plus de 57% aux élections législatives. Donc, il est légitime de penser que cette fois-ci, ce sera à peu près pareil. On aura plus de 50% d'abstention. On frôlera peut-être 60% d'abstention à nouveau au second tour. Donc effectivement, difficile de faire des projections. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la gauche? Jean-Luc Mélenchon appelle à un troisième tour. Il y a des discussions qui sont en cours pour l'union avec les écologistes, avec les communistes. Est-ce qu'avec les socialistes, l'union va se faire ou pas?
Il y a
On ne
des
sait pas.
discussions aussi lors de notre région où Carole Delga avait été réélue largement à la présidence, mais là aussi avec une participation très faible. Je pense que les discussions, je sais qu'il y a des discussions en cours, mais je pense qu'elles vont être âpres, a priori. Je ne suis pas convaincu qu'il y aura des candidatures, on va appeler ça d'union de la gauche, dans beaucoup de circonscriptions.
Ça va être âpre dans la région, ça va être âpre, c'est un bastion PS. Donc effectivement, le Parti socialiste qui reste extrêmement fort, à l'image de la présidence de région, Carole Delga. Donc effectivement, ça va être âpre. Et à titre personnel, j'imagine mal des listes communes, France Insoumise et Parti socialiste, très 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 sincèrement. Je pense que le Parti socialiste va quand même présenter des candidats dans beaucoup de circonscriptions, en tout cas sur notre région.
Vous parlez de ce découragement, certains parlent d'essoufflement, de fatigue démocratique. A priori, il y a peu de chances que la participation que vous évoquez à l'instant pour les législatives soit plus forte que ce qu'on a pu constater de tous les scrutins intermédiaires depuis 2017. Alors certes, il y a eu la crise sanitaire entre-temps, qui évidemment a beaucoup joué, mais on peut craindre effectivement que les gens aient du mal à se remobiliser, que les partis dits d'opposition puissent remobiliser leurs électeurs.
Tout à fait. En fait, depuis le passage au quinquennat, donc depuis le deuxième mandat de Jacques Chirac en 2002, les présidents élus ont systématiquement eu une majorité à l'Assemblée nationale. Ça a été fait pour ça. La réforme du quinquennat a été faite pour ça, en fait, pour que les présidents élus aient une majorité à l'Assemblée, et ça a toujours été le cas. Donc on imagine que cette fois-ci, ça va être la même chose. Les électeurs imaginent que ça va être la même chose. Et c'est aussi ça qui fait que on a un taux d'abstention plus fort parce que quelque part, c'est un peu joué
Ils ont
d'avance.
l'impression que ça ne sert à rien de se déplacer. Vous pensez que de plus en plus, c'est ça?
Oui, aux élections législatives, ça ne sert à rien de se déplacer puisque les élections législatives sont devenues une confirmation du résultat des élections présidentielles. Et donc, à ce compte-là, à quoi bon se déplacer puisque de toute façon, on connaît déjà le résultat. C'est le président réélu ou élu qui aura la majorité.
Est-ce qu'on peut s'attendre à un raz-de-marée de députés? Alors, je ne sais pas s'il faudra les appeler toujours LREM. En tout cas, il y aura peut-être des ralliements aussi de certains, ça a déjà commencé, hein, LR ou PS à Emmanuel Macron, qui pourraient se retrouver avec une majorité pléthorique à l'Assemblée. Je rappelle qu'a priori, si j'ai bien regardé, il n'y a pas d'élection d'ici 2026, ce qui est rare en France, hein, une période aussi longue. Et donc, il y aura 3 ou 4 ans sans élection. Il va se retrouver peut-être avec les pleins pouvoirs, Emmanuel Macron. Est-ce que ça ne pourrait pas faire réfléchir justement les électeurs qui pourraient se dire, attention, il faut peut-être qu'on aille tout de même voter pour que Emmanuel Macron n'ait pas une majorité trop large, à la fois à l'Assemblée, mais même au Parlement tout entier.
Bon, effectivement, on peut imaginer que Emmanuel Macron va bénéficier d'une large majorité à l'Assemblée nationale, si on en croit ce que je disais juste avant, les logiques des législatives précédentes. Après, il y a deux enjeux. Il va y avoir l'enjeu de la participation, qui va être, à mon sens, difficile de remobiliser les électeurs, notamment de la France insoumise. On voit sur les présidentielles de 2017, les électeurs qui s'abstiennent le plus aux législatives sont les électeurs dits radicaux, c'est-à-dire extrême gauche, France insoumise et de l'autre côté, le bloc extrême droite, Rassemblement national et Debout la France en 2017. Donc, pour Jean-Luc Mélenchon qui appelle à un troisième tour, qui demande aux Français de l'élire Premier ministre, il va falloir mobiliser son électorat, d'une part, et d'autre part, réussir à faire l'union. Avec le Parti socialiste, ce sera très compliqué à mon sens, du moins au niveau de la région, avec les écologistes, les communistes, on verra peut-être. Mais en tout cas, oui, on peut, si l'abstention est forte, ça bénéficiera mécaniquement,
Mécaniquement.
pardon, au parti au pouvoir, le rassemble. La
Le
République en marche,
LREM.
pardon. La République en marche.
Alors oui, encore une fois, je ne sais pas si cet acronyme va demeurer, si ce sera toujours la République en marche, surtout si Emmanuel Macron veut élargir sa majorité et attraper peut-être des députés aujourd'hui républicains ou du Parti socialiste. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Aiguille. On va vous souhaiter une très bonne journée. Emmanuel Macron a donc été réélu président de la République pour les 5 années à venir. Place maintenant aux législatives dans quelques semaines. Elles vont avoir lieu les 12 et 19 juin. On saura alors si Emmanuel Macron dispose d'une majorité à l'Assemblée pour gouverner le pays. À vous, Francky Guéret, pour la suite de cette matinale.